Rue des Entrepreneurs, à 9h11 sur France Inter. Didier Hadès, Dominique Dambert.
Au travail, à la maison, dans la vie en général, on joue perso. L'individualisme triomphe. L'intérêt général est-il une cause perdue ? Comment construire de nouveaux liens sociaux ?
Rue des Entrepreneurs.
Sondage après sondage, on nous le dit, les Français, et ils ne sont pas les seuls, sont individualistes, ils n'ont plus confiance dans les politiques, les syndicats, les médias, ils se méfient de tout ce qui peut, de près ou de loin, ressembler à une institution. Faute de réponses satisfaisantes à leurs questions, ils s'en remettent à eux-mêmes pour bricoler leur avenir. Ils revendiquent leur individualisme, voire leur égoïsme. Alors comment en est-on arrivé là ? Par envie de s'affirmer, d'être considéré comme une personne et pas comme un numéro ? Ou par peur, face à un monde dont on n'a pas la clé, la tentation du repli sur soi l'emporte ? Les comportements individualistes perturbent les uns mais font le bonheur de tous les marchands de bien-être, gourous du développement personnel, magazines psy, etc. Faut-il pour autant considérer que la conscience de l'intérêt général est morte et enterrée ? Eh bien, pas si sûr. Et c'est surtout pas si simple. Et moi, et moi, et moi, le culte de soi, la société en émoi, c'est le dossier aujourd'hui de Rue des Entrepreneurs. Didier Hadès.
Dominique Dambert.
Bonjour.
Les comportements individualistes se développent, un changement historique qui fait couler beaucoup d'encre. Pour Jean-Claude Kaufmann, sociologue, observateur attentif des évolutions de la société, individualisme ne rime pas forcément avec égoïsme et encore moins avec bonheur. Le chacun pour soi est un remède par défaut de repères crédibles. Jean-Claude Kaufmann est l'auteur de L'invention de soi chez Armand Collin et de nombreux autres ouvrages sur la vie quotidienne des Français. Le dernier en date, Casserole. L'amour et crise, ce que cuisiner veut dire, toujours chez Armand Collin. Jean-Claude Kaufmann.
Le grand changement que nous sommes en train de vivre, c'est le fait que nous entrons dans une société qui est centrée sur nous-mêmes. Chacun devient au centre de sa propre existence et veut opérer des choix, surtout. Autrefois, on s'inscrivait dans la tradition, il y avait une transmission des manières de faire, comment élever l'enfant. La mère apprenait à sa fille les quelques gestes pour élever l'enfant. Aujourd'hui, la jeune future mère, sur fond d'angoisse, très très souvent, va lire des magazines, écouter la radio, bien sûr, lire des livres et se poser mille questions sur tout pour faire ses propres choix. C'est comme si l'on voyait s'approfondir la démocratie au quotidien, comme si la démocratie avait commencé par un système politique qu'on connaît bien, et qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne, dans la vie privée, chacun était de plus en plus au centre. On a envie de vivre nos projets, de vivre nos rêves, et plus que ça, d'avoir nos espaces à nous, de vivre nos rythmes personnels, donc d'être au centre. D'où aussi, souvent, la fatigue mentale de la société d'aujourd'hui.
Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a un bon côté, le fait de pouvoir écrire son propre avenir, comme vous dites, mais cet avenir, il est de plus en plus incertain. Oui. Et puis, il y a beaucoup de désarroi, quand même, dans cette construction de soi.
Oui, il y a énormément de désarroi et de fatigue, de casse individuelle, psychologique. Alors, ça a commencé, ce grand changement de société, ça n'a pas opéré d'un jour à l'autre, ni même d'une année à l'autre. C'était un processus très, très long, très complexe. Mais c'est dans l'après-guerre, autour des années 60. Les années 60, c'est pas, faut pas résumer ça à 68. Hein. On a toute une série d'indicateurs dans le milieu des années 60 qui montrent comment ça commence à bouger, la culture rock, le mouvement jeunes, l'émancipation des femmes, etc. Ce sont les personnes qui arrivent au centre de leur propre histoire. Alors au début, ça a été vécu avec tambour et trompette. C'était l'émancipation des personnes. Les années 70 sont très joyeuses, très dynamiques. On casse les cadres anciens. Et puis, on découvre quoi ? Qu'il y a un prix à payer de la liberté. C'est notamment la fatigue mentale. Il y a Alain Ehrenberg qui a le titre de son livre qui est très, très, très juste, très beau. La fatigue d'être soi. La fatigue d'avoir à décider pour tout, sans cesse, d'être responsable. On sent qu'il y a des enjeux par rapport à son avenir. Et puis, en plus, cette souffrance de ne pas pouvoir réaliser tous les possibles. C'est un univers de frustration. Alors, ça explique un peu aujourd'hui la nostalgie pour la société, disons, des années 50. On voit ça fleurir à droite et à gauche. Évidemment, c'était une société plus simple mentalement. Le problème, c'est qu'on ne peut plus y revenir. D'ailleurs, on y reviendrait personnellement, ça serait amusant pendant 15 jours ou 3 semaines, mais très vite, cela deviendrait insupportable, parce que nous avons pris goût à cette liberté, nous avons pris le virus de cette liberté individuelle, et on ne peut pas revenir en arrière.
Et puis, on a pris goût à cette liberté de parole, ce qui n'était pas le cas quand même dans les années 50 et 60.
Oui, c'est une liberté dans tous les domaines. Alors, la liberté de parole, mon dernier livre, c'est donc sur les repas et la cuisine. C'est étonnant le changement, les manières de table bourgeoises du 19e siècle. D'abord, c'est des corps très très raides, c'est une discipline très régulière du groupe, et puis c'est une parole très contrôlée et très rare où on n'exprime pas ses sentiments, où l'enfant doit demander l'autorisation pour dire quelques mots. Aujourd'hui, autour de la table, c'est tout le contraire. C'est une très grande liberté, une confusion des mots, tout le monde se coupe, exprime et cherche à exprimer au contraire ses sentiments. Et en plus, il faut arriver à faire groupe autour de la table, parce que comme nous sommes dans cette société des individus, certains préfèrent leur propre rythme et ne pas participer à ce rituel collectif. Alors, on a souvent des repas qui sont plus collectifs, familiaux, par exemple le soir, et le petit déjeuner, par exemple. On peut prendre l'exemple du petit déjeuner. Le midi, chacun est de son côté, à droite, à gauche, au travail, l'enfant à l'école, etc. Donc, on est rarement ensemble. Mais le matin, on pourrait prendre son petit déjeuner ensemble. Or, il y a plus attirant que ça, il y a plus fort, il y a plus important, c'est d'être en accord avec soi-même, de rentrer dans sa journée. Comment on se construit soi-même ? On doit de plus en plus se raconter l'histoire de sa propre vie à partir des éléments qu'on vient de vivre. Or, pendant la nuit, on a dormi, on est parti dans des rêves bizarres, etc. Donc le matin, il faut renouer le fil, il faut re-rentrer en soi-même dans son histoire. Et, comment dire, le petit déjeuner, c'est un grand moment de face à face avec son bol aujourd'hui. On a besoin de rentrer en soi-même, de rentrer dans la journée, et l'autre en face, il a son propre travail à faire, puis souvent il n'a pas la même heure, d'éveil, pas le même rythme d'éveil. Il y a des rythmes d'éveil très très différents, il y a des goûts alimentaires très différents, donc on voit s'individualiser le petit déjeuner, mais ça ne veut pas dire qu'on fuit l'autre, qu'on refuse sa présence. Non, on a un moment de quant à soi, de petite solitude, mais c'est pour mieux aller vers l'autre ensuite. Il faut bien voir que cette société d'aujourd'hui centrée sur les individus, ça ne veut pas dire le refus de l'autre, le refus du lien social, le refus du groupe. Oui.
Mais c'est quand même, on n'a pas encore trouvé la manière de tricoter en même temps le collectif et l'individuel.
Non, on ne peut pas tricoter en même temps l'individuel et le collectif. De plus en plus, la société est marquée par des temporalités différentes. Il y a des moments où on a le besoin du quant à soi, de la solitude, du rythme propre, de l'espace à soi, et à d'autres moments, on a l'envie de groupe. On a besoin de moments de fusion où l'individu arrive à se dépasser et à s'oublier. Le petit problème, c'est que ça ne s'inscrit pas dans la durée parce qu'on a peur d'être pris. On rentre dans une société où le modèle, c'est plutôt l'hypermarché. On veut prendre sans être pris et avoir comme ça un moment de fusion, mais dont on peut sortir.
Et est-ce que ça s'inscrit dans la citoyenneté ?
Alors, ça s'inscrit dans une citoyenneté, mais...
Revisitée.
Une citoyenneté revisitée et surtout pas régulière et continuelle. C'est-à-dire l'inscription dans un militantisme régulier, par exemple, fait très peur aujourd'hui. On a peur d'être pris. Donc on voit très bien dans la société d'aujourd'hui, à travers les médias, qu'il y a des moments de débats passionnés qui, d'un seul coup, arrivent sur le devant de la scène, et puis l'événement retombe. Donc c'est une participation citoyenne, mais par éclipse, par moment, et qui est fondée beaucoup, et ça c'est nouveau, c'est très fort, sur l'émotion.
Nous vivons de plus en plus longtemps et on a l'habitude de dire que c'est une bonne nouvelle. Une petite Française sur trois, née depuis l'an 2000, vivra plus de 100 ans. Mais cette perspective change complètement la relation au corps. Mon corps, c'est mon seul capital, c'est le sous-titre du dernier livre d'Hervé Juvin intitulé « L'avènement du corps » aux éditions Gallimard. Hervé Juvin qui est aussi président du cabinet de conseil Eurogroupe Institute.
Si le corps est bien en train de prendre le pouvoir de notre société, et si nous assistons bien à l'avènement du corps qui devient notre seul capital, vous allez beaucoup changer la manière dont vous vivez. Vous allez changer la manière dont vous le regardez, ce corps qui est le vôtre et qui devient tout de vous. Puis ça va aussi beaucoup changer vos rapports aux autres. Simplement trois ou quatre exemples. Si mon corps est mon seul capital, je n'ai pratiquement pas de limite dans ce que je vais être prêt à dépenser pour sa santé, pour son bien-être, pour sa séduction, etc., etc. C'est ce à quoi nous assistons chez beaucoup de jeunes, pas nécessairement dans nos pays très privilégiés, au Venezuela, au Brésil, comme dans les zones côtières chinoises à Shanghai et à Hong Kong, les jeunes chinoises et les jeunes chinois sont prêts à dépenser des parts énormes de leurs revenus, simplement pour être le plus beau, la plus belle, pour se sentir bien dans leur corps et pour briller. C'est quelque chose d'assez nouveau que ce corps qui devient notre seul capital. Ça veut dire aussi autre chose, c'est que la manière dont vous vous situez dans le temps et dans la chaîne des générations change. Nos parents, nos grands-parents se sont vus comme les usufruitiers d'un monde qu'ils recevaient en partage et qu'ils devaient s'efforcer de transmettre meilleur, enrichi, le progrès, à leurs descendants. Si mon corps est mon seul capital, si je ne crois plus à la vie éternelle, si je ne crois pas non plus que je vais par la lutte politique construire un monde meilleur pour des générations et des générations. Ce qui compte, c'est ici, maintenant et tout de suite. C'est d'en profiter tout de suite. D'où le dogme que l'on répète dans Psychologie Magazine, dans tous les ouvrages sur la culture de soi, il faut se faire plaisir tous les jours. Et vous voyez bien que ce court-termisme, ce culte de l'instant, il change complètement le rapport des générations. Puis il y a un autre point qui est moins facile à aborder, c'est que le corps, c'est un marqueur social, puis c'est aussi un facteur d'inégalité très fort. On ne sait pas suffisamment qu'entre une jeune fille, un jeune garçon qui sont beaux et ceux qui ne le sont pas, les carrières vont être différentes, les niveaux de rémunération vont être différents, évidemment les fréquentations vont être différentes, et qu'on tend à avoir un monde, y compris un monde professionnel et un monde économique, qui est de plus en plus avide de beauté et qui de plus en plus classe les gens, distingue les gens selon leur beauté physique. C'est très frappant de voir les groupes de jeunes qui se constituent en disant « autour de moi, il y a des gens beaux, les autres, j'en veux pas ». Mais on est sur quelque chose d'assez nouveau, de très exigeant, pas nécessairement de très optimiste d'ailleurs.
Mais Hervé Juvin, le culte de soi, c'est une industrie. C'est une économie à part entière maintenant. Et vous faites le lien, vous qui êtes un spécialiste des marchés financiers, avec les marchés financiers.
Les marchés financiers, ça repose sur quoi? Ça repose sur la liquidité, pouvoir tout négocier à n'importe quel moment sans coût de transaction considérable. Ça repose sur la réversibilité. Je peux arbitrer tout actif contre un autre actif sans frais à tout moment. Et ça repose sur la fluidité. Je suis dans le marché comme un poisson dans l'eau. Ben, ça devient les modèles de nos vies. Et les modèles de nos vies, ça devient quelque chose où je ne suis pas tenu par mes engagements. Je suis délié de mes origines, de mes appartenances sociales, communautaires, etc. C'est un monde donc, ma vie personnelle, mes relations avec les autres sont placées sous le signe de la liquidité, de la fluidité, de la réversibilité. Alors l'industrie de la mode, l'industrie de la beauté s'y retrouve parfaitement. Tous les messages sur « je me dois bien de dépenser beaucoup pour moi », tous les messages sur « je produis ma beauté et je produis mon corps ». Aujourd'hui, j'ai apparemment tel âge, mais je peux choisir l'année prochaine de me rajeunir de 10 ans et de mener une vie différente. Tout ça, évidemment, c'est le marché de la production de soi qui est en train de devenir, si j'en intègre toutes les composantes qui vont de l'industrie de la santé à l'industrie des cosmétiques, à l'industrie du bien-être, du sport d'entretien, etc., une grande partie du tourisme également, on est probablement sur la première industrie mondiale. C'est l'industrie de la production de soi comme bien-être, comme joie de vivre, comme séduction, comme plaisir, etc., etc. Et cette industrie-là, elle n'a pas de fin. Ce qu'il est important de montrer, parce que c'est quand même le moteur de nos économies, c'est que la demande de séduction, de bien-être, de rajeunissement, elle est illimitée.
Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais au fil des ans, nos sociétés se sont construites par juxtaposition de groupes, chacun ayant ses valeurs, ses repères, son identité à exprimer. Les spécialistes de la consommation le savent bien, eux qui travaillent pour des entreprises qui ont encore la nostalgie d'un marché de masse. Le cabinet d'études Théma a enquêté sur deux types de consommateurs diamétralement opposés, les altères et les hyper. Les hyper-consommateurs sont en quelque sorte des fashion victims. Tout produit nouveau est en soi une motivation d'achat. Les hyperconsommateurs sont les enfants de la mondialisation, du spectacle et du marché. Les alterconsommateurs, eux, ont une attitude critique vis-à-vis de la société de consommation. Ils ne sont pas nostalgiques du passé, mais ce qui les fait bouger, c'est la quête de sens. Les hyper et les alters ont un point commun, le moi-je. Éric Fouquier, PDG de la Société d'études de marketing et de communication, Théma.
Il y a des mouvements qui sont des mouvements de réaction à une surpression, voilà. Et cette réaction à une surpression, pour ce qui concerne la France et les alterconsommateurs, elle a apporté à cette catégorie alterconsommateur, on peut se demander d'ailleurs si c'est une catégorie ou le nom commode qui désigne simplement une prise de conscience, enfin ça a apporté à cette prise de conscience, ou cette mouvance, une dernière strate de public.
Alors, ils sont pas révolutionnaires, ils veulent pas fracasser la société, et d'ailleurs, ils consomment, ils ont un grand pouvoir d'achat et de consommation, mais alors, les produits, si on faisait un peu le portrait de l'alterconsommateur, ce qui nous permettra d'arriver à l'hyperconsommateur, parce qu'on l'a compris, les uns et les autres consomment des choses radicalement différentes.
Oui. Alors, l'alterconsommateur, c'est quelqu'un... D'abord, c'est un gros consommateur de biens culturels, si on peut appeler ça comme ça. Il lit beaucoup, il achète pas mal de livres, il s'expose à l'information, il regarde des émissions particulières qui ne sont pas des émissions de prime time, etc. Bon, donc, c'est dans cet immense champ culturel, c'est un consommateur particulier, assez exigeant. Et en ce qui concerne les autres produits, alors il est dans une attitude, disons, de défiance par rapport à au grand temple de la consommation que sont les hyper, etc. Mais c'est une défiance qui n'est pas toujours suivie d'effet parce que il est comme tout le monde, quoi. Il a besoin d'aller vite, de gagner du temps. Et ma foi, il se rend aussi dans les hyper, mais il aime pas ça. Ça c'est clair. Il préfère les magasins de centre-ville. Il préfère les relations humaines, les échanges, c'est-à-dire le commerce, le commerce séculaire, quoi, celui qui donne lieu à un échange. Et concernant les produits, ils aiment bien ce qui a du goût. Ils se méfient beaucoup de l'industriel et ils font très attention à la qualité des ingrédients et des substances, à l'origine, etc. Et puis, par ailleurs, ils ont une revendication de tradition, mais pas la tradition au sens de retour nostalgique au passé. Il existe des recettes qui sont des recettes venues du passé, qui en ce sens sont porteuses de qualité. Alors, il va par exemple préférer de très très loin les fromages à la coupe traditionnels issus du terroir aux copies industrielles qui sont Caprice, Babybel, Kiri, par exemple. Des marques, c'est ça, exactement. Le Kiri, le Babybel, le Caprice, tout ça, c'est pas du tout leur tasse de thé. En revanche, c'est la tasse de thé des hyper consommateurs qui adorent ça, qui trouvent ça fun, doux, agréable, etc. Donc, les alter consommateurs ne sont pas dans la nourriture régressive infantile, ou enfantine, en tout cas en régressive, disons le doux, le sucré, le facile, l'enveloppé, le sans danger. Ils sont plutôt du côté du fort. Ils adorent les sauces du genre Tabasco ou la moutarde maille à l'ancienne, par opposition aux sauces ketchup, aux sauces beaucoup plus soft. Ils adorent la force, le vrai, l'authentique, c'est-à-dire les choses qui sont vraiment non traitées, hein, donc il fait très attention au non-traitement. Et il aime beaucoup la tradition en tant qu'elle est, si vous voulez, l'affirmation de la supériorité d'un certain mode de production. Ce sont des gens qui vont soutenir les modes de production familiaux ou ancestraux ou locaux. Et à travers ça, vous voyez, ils essayent de faire exister un monde qu'ils estiment devoir, qui devrait durer. Ils pensent que ce monde-là devrait, a droit à l'existence. Et a droit à l'existence face aux énormes trusts qui englobent qui tendent en tout cas à capter l'économie actuelle. Et donc ils vont voter pour des petits fromages, d'abord parce que c'est bon, parce que ça a du goût, ça a de la force, mais aussi parce que le petit fromage, c'est une production paysanne et ils votent pour cette production paysanne. Vous voyez un peu, il y a toujours un peu de politique derrière.
Mais qui sont finalement les plus individualistes? Alter ou hyper?
Tout le monde est individualiste dans cette affaire, mais c'est pas le même genre de construction de soi et de Mais ce qui est intéressant, c'est que l'individualisme altère est une forme d'humanisme. Je reprends cette association de mots à François de Saint-Gly, qui dit « L'individualisme est un humanisme ». C'est un petit livre récent. C'est une forme d'humanisme, c'est-à-dire qu'à travers mes achats individuels, je me préoccupe du destin collectif. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'hyperconsommateur qui ne se préoccupe absolument pas du destin collectif. Lui, il est dans sa bulle, quoi. Il achète des objets pour se construire une identité, point.
Lui, c'est moi d'abord.
Lui, c'est moi d'abord, exactement. Moi d'abord, et je me soucie très très peu des autres, sauf quand les autres sont des spectateurs de ma propre personnalité. Alors là, j'adore ça.
Et moi, et moi, et moi, le culte de soi, la société en émoi. C'est le dossier de Rue des Entrepreneurs ce matin sur France Inter. Dominique Dambert, Didier Hadès.
Le bonheur, si je veux. Un enfant, quand je veux. Un coach, pour moi. Un blog, à moi. Un avocat, plutôt qu'un syndicat, pour défendre mes intérêts au boulot. Les comportements individualistes se développent dans nos sociétés occidentales. Pas étonnant que le business de l'ego se porte bien. Journaux spécialisés, émissions télé sur l'intimité, marché du bien-être, chirurgie esthétique, la liste s'allonge tous les jours. L'heure du chouchoutage a sonné, comme l'écrivent Henri Kaufmann et Laurence Faguer dans leur livre « Le marketing de l'ego » aux éditions Maxima. Les auteurs expliquent comment on est passé du client soi-disant roi au client moi. Henri Kaufmann, co-auteur de marketing de l'ego, est président d'une société de marketing relationnel, comme une idée.
Les marques ont tellement dit que c'était des clients rois que finalement, au bout d'un moment, ils y ont cru, alors qu'en fait, pas du tout. Et petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il y avait un tel écart entre ce que disaient les entreprises et ce qu'eux ressentaient au moment où ils passaient leurs achats, qu'ils ont commencé à oser réclamer, à oser choisir, à oser quitter la marque. Et finalement, c'est devenu ce que j'ai appelé le client moi, c'est-à-dire le client qui pense d'abord à lui avant de penser à la marque.
Alors vous dites que le marketing, c'est de s'adapter aux attentes du client. C'est parfois aussi susciter le désir du client, non, le marketing.
Ça, c'est aussi la communication qui suscite le désir. Le marketing, c'est de créer le bon produit et la bonne communication qui correspondent à ce que peuvent entendre et ce que peuvent dépenser les clients.
Et vous faites un lien assez audacieux dans votre livre en disant que le marketing n'est pas loin de la psychologie. On peut trouver Freud dans l'univers du marketing.
C'est pas qu'il n'est pas loin, c'est que la psychologie est dans le marketing. Faire du marketing sans avoir une petite teinture, enfin plus ou moins grande, de psychologie, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, parce que les réactions des clients, enfin en termes d'ego en particulier, sont évidemment nées de Freud, de Jung, de ce que vous voulez. Il faut faire de la psy, enfin, il faut avoir passé quelques années sur un divan pour parler valablement de marketing.
Alors il faut faire un peu de psy, d'autant que vous dites que le client n'achète pas pour les raisons que le vendeur imagine.
Très souvent, oui. Bah, l'exemple typique dans le bouquin, c'est deux personnes qui viennent dans un magasin acheter toutes les deux un frigo. L'une, son frigo vient de tomber en panne l'heure d'avant, et l'autre va se marier dans 6 mois. Donc, toutes les deux ont besoin d'un frigo, mais l'une, en fait, a besoin, non pas d'un frigo, mais d'un service immédiat, alors que l'autre a besoin de conseils de déco, c'est un petit peu une promenade exploratoire. Donc, si on traite les deux personnes d'une manière moyenne, ben on rate l'une des ventes et l'autre aussi.
Alors, le marketing et les marques ont encore de beaux jours devant elles, puisque vous citez un certain nombre d'exemples où, effectivement, ces marques ont su s'adapter à cette nouvelle univers du consommateur narcisse. Vous parlez de Smart, notamment. C'est vrai que ça a eu du mal à démarrer en France, mais maintenant, ça se répand quand même assez largement. Mmh. Et là, par le choix des options, on peut avoir un peu son sur-mesure.
Alors, ça, c'est pas vraiment du marketing de l'ego, c'est ce qu'on appelle du marketing one-to-one.
C'est-à-dire
du marketing.
Oui, mais c'est pas loin non plus.
C'est pas très loin. C'est-à-dire que par le jeu de petites briques, on conçoit un produit qui est quasiment sur mesure et tel que le client le souhaite. Donc, vous avez cité Smart, mais il y a aussi Dell qui n'a pas de stock d'ordinateurs, mais qui a des stocks d'écrans, de puces, de claviers, de mémoire, etc. Et qui finalement, après un questionnaire très précis sur le besoin du client, assemble ces différentes pièces pour faire un ordinateur qui ne ressemble pas à aucun autre.
Autre exemple, celui d'Amazon.com, oui. Donc oui. La grande librairie sur Internet, là aussi, qui sait sentir ce nouveau client.
Je crois qu'Amazon, c'est vraiment le modèle du marketing de Lego. Amazon a tout compris dans la mesure où plus on achète sur Amazon et mieux on est servi. Puisque Amazon repère très vite vos centres d'intérêt. Donc, quand vous allez sur Amazon, il y a sur la home page, comme on dit, sur Internet, vous avez votre magasin personnel. Moi, j'ai mon Kaufman Store sur Amazon.com. Et là, on me propose des produits qui me plaisent, puisque dans des thèmes qui m'intéressent. Mais également, on me dit, vous avez acheté tel livre, ou tel disque, ou tel DVD. Eh bien, tous les gens qui ont acheté le même livre, disque ou DVD, voilà ce qu'ils ont acheté aussi. Donc, quelque part, on arrive à ce qu'on appelle un marketing de communauté, où on découvre des nouveaux produits et on est en fait très, très intéressé par le fait que des gens qui vous ressemblent se sont aussi intéressés à d'autres produits. Et une fois sur deux, je dois dire que je cède à la tentation.
Et tout le monde est content.
Et tout le monde est content, puisque plus j'achète, mieux je suis servi. Et évidemment, la logistique est sans faille, et vraiment, c'est tout à fait bien.
On est dans l'ère des enfants gâtés ?
Non. Non, je dirais pas ça, c'est que on est dans l'ère de l'échange mercantile. C'est-à-dire que d'un côté, j'achète un produit, et de l'autre, je donne mon argent. Et donc maintenant, j'en veux tout simplement pour mon argent. Dans le temps, on avait quelques scrupules à réclamer. Vous savez, vous allez au restaurant, vous demandez un steak bleu. On vous l'amène à point. Ou le vin est un peu bouchonné. Bon, avant, on disait non, j'ai peut-être tort, puis de toute façon, c'est le garçon qui va se faire engueuler, le cuisinier. Bon, donc on disait tant pis, je le mange. Maintenant, non, je paye. On m'a demandé ce que je voulais. Eh bien, j'exige quelque part que le produit qu'on va m'apporter correspond à ce que j'ai demandé.
Respect du contrat.
Exactement.
On peut faire confiance au marketing et à la publicité pour savoir surfer sur la vague du « moi d'abord », pour séduire chaque pièce du puzzle de notre société et inventer tous les discours que chacun a envie d'entendre, même si tout ceci est un peu plus compliqué qu'avant. Mais qu'est-ce qui fait société aujourd'hui ? Bernard Catlat dirige le CCA, Laboratoire d'idées, d'études et de prospectives du groupe Havas. À plusieurs reprises, il nous a aidé à décoder les évolutions de notre société. Son diagnostic sur la fragmentation de notre société est assez pessimiste. Bernard Catlat nous donne des pistes tout de même pour reconstruire de nouveaux liens sociaux.
Ce qui fait société aujourd'hui, ce n'est plus l'intérêt collectif national. Et on a énormément de mal, les politiques le voient tous les matins.
Donc ça, c'est une cause perdue, momentanément.
Momentanément, bien sûr. Mais on a à la fois aujourd'hui un nationalisme, mais pas de mobilisation nationale. Et c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que la dernière dimension nationale qui peut se faire aujourd'hui, malheureusement, j'ai peur qu'elle ne se fasse que sur un repli nationaliste, que sur de l'ostracisme à l'égard des étrangers, que sur une méfiance à l'égard de l'Europe et à l'égard des pays étrangers, que sur des résistances à l'égard de l'immigration, etc. Et l'on voit que c'est ça qui paye. Et là, il n'y a pas consensus national, mais on voit se dégager vaguement, et tristement, je dirais, une majorité frissonnante, frileuse, défensive, un peu xénophobe, etc. En revanche, mobilisée pour des sacrifices individuels au nom d'un bien collectif national, il est clair qu'aujourd'hui, ça n'a jamais moins bien marché depuis 50, 60 ou 70 ans. Qu'est-ce qui fait société aujourd'hui ? C'est deux choses. La première, c'est de très grandes mobilisations possibles, essentiellement émotionnelles, pilotées par les masses médias, de très très courte durée. Exemple, tout ce qui s'est passé autour du tsunami, ou tout ce qui se passe tous les ans autour du Téléthon, disons, pour être à deux niveaux d'échelle. Là, il y a mobilisation, effective, pas de tout le monde, mais d'une très large majorité de gens. Là, il y a un vrai effort, il y a une vraie capacité de contribution, physique ou financière. Et là, pendant un très court instant, il y a une impression de solidarité, qu'on est tous dans le même bateau, qu'au fond, l'humanité, c'est à peu près composé de 5 ou 6 milliards de gens qui sont presque pareils. On avait connu ça un peu à l'époque de la Coupe du Monde de foot aussi. Mais ce sont des choses extrêmement éphémères, et surtout sans lendemain. Alors je ne dis pas que c'est sans lendemain, c'est très bien d'avoir donné des sous de son ami, bien sûr. Mais ce qui est sans lendemain, c'est que ça n'a rien changé dans notre manière de nous comporter à l'égard du pays du tiers-monde, ça n'a rien changé à l'égard de la conception du développement qu'on peut avoir, ça n'a rien changé dans la conception du tourisme qu'on peut avoir, c'est-à-dire que ça ne construit pas de liens sociaux, vous voyez, c'est un moment d'extraordinaire et très positive solidarité émotionnelle, mais sans lendemain et non constructif. Et alors, qu'est-ce qui fait société par ailleurs? Ben, à l'autre bout de la lorgnette, ce sont ces petites mobilisations par lesquelles, en grande majorité, on va chercher à se rattacher à cette communauté à taille humaine, chaleureuse à l'intérieur, défensive à l'extérieur. Ce que moi j'appelle les clans, pour essayer de résumer tout ça. Et ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Et donc la grande complexité, je dirais, pour les politiques, pour les managers d'entreprise, pour tous les gens qui ont envie de parler à la population et d'essayer de l'intéresser, de la mobiliser, de lui demander un effort, de lui demander une contribution, c'est de se dire aujourd'hui, on est quasiment obligé soit de passer par ce que j'appellerais la méthode tsunami, c'est-à-dire par une immense pression médiatique où il faut mettre en scène l'émotion et où il faut qu'on se sente concerné. On était concerné par le tsunami parce qu'il y avait des tonnes d'images et parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous ressemblaient, qui étaient tout blancs, qui étaient en train de se noyer. On n'a pas été concerné beaucoup par le Pakistan parce que c'était loin, c'était effectivement un pays qui n'a pas une réputation très sympa en ce moment et qui n'avait pas de gens comme nous. Et qu'en plus, ils étaient perdus dans la neige et qu'il n'y avait pas de caméraman. Donc, soit on est condamné à cette espèce de mobilisation par l'émotion, et là les médias ont un rôle à jouer, soit on est condamné bien sûr, à passer par des micro-réseaux. Et la grande question, c'est lesquels sont efficaces. Et donc, nous, tout notre travail en ce moment de sociologue, à la fois de l'entreprise, de l'organisation et de la consommation, c'est d'essayer de repérer quels sont ces modèles de regroupements sociaux qui fonctionnent en ce moment. Et on en a identifié 6 ou 7 qui semblent être aujourd'hui des noyaux.
Exemple.
Voilà ce que je sais. C'est 17-18% de Français aujourd'hui, par exemple, qui recherchent une appartenance culturelle, une identité culturelle. Et donc, leur groupe d'appartenance, il doit être idéologique, religieux, ou bien racial, si ça veut dire quelque chose, ou bien linguistique, ou bien avoir un mythe commun et partagé. Tout ça répond à ce besoin, qui est le besoin de partager quoi ? Des racines. Et si l'on veut parler à ces personnes-là, ils ne se mobiliseront que si l'on fait référence, justement, aux racines qu'ils se considèrent communes, qu'on respecte ces racines, qu'on rend hommage à ces racines, et c'est à travers cela qu'on doit leur parler. Mais à l'opposé, on a d'autres personnes pour qui le mode de socialisation, de participation à la société, c'est ce que moi j'appelle le modèle de la coopétition, un mélange de coopération et de compétition. Pour simplifier, c'est ce qui se passe dans tous les jeux de télé-réalité, là, en ce moment. Et au fond, qu'est-ce qui se passe dans la télé-réalité? C'est un message qui vous dit, c'est impossible de réussir seul. Il faut réussir en groupe. Et dans une bande qu'on n'a pas choisie. On est avec d'autres gens, il faut faire avec. On est, un, obligation de coopérer. Deux, obligation de s'éliminer mutuellement. Et bien sûr, d'éliminer celui qui pourrait vous éliminer demain, à titre préventif. Et trois, tout ceci en psychodrame permanent. C'est un mode de relation tout à fait différent. Un autre exemple, il y a des gens qui fonctionnent sur un mode beaucoup plus classique qu'on appelle nous la convivialité coopérative. On va donc les retrouver dans les associations, dans les clubs, dans les mutuelles, dans les coopératives, autour de centres d'intérêt. Ça peut être la pêche à la ligne ou ça peut être la mucoviscidose. Mais ce sont des personnes, donc là on retrouve quelque chose qu'on connaît bien, qui est la vie associative en France, c'est relativement classique. Mais à l'opposé, on voit se développer, notamment avec Internet et avec les nouvelles technologies, de nouvelles formes de socialisation chez des gens qui vivent physiquement de façon très autonome, très individuelle, qui finalement butinent beaucoup des relations, mais n'ont pas de vrais liens très profonds avec beaucoup de gens. Et eux, leur mode de fonctionnement, c'est d'être connecté au maximum de gens, mais dépendant du minimum de gens. Donc c'est le blog, c'est les chats, c'est la drague sur Internet, c'est les jeux en réseau. Bon, c'est ça. Alors, si l'on a aujourd'hui 4, 5, 6 ou 7 recettes de mobilisation, mais qui sont non seulement différentes, elles sont contradictoires, elles sont opposées. Ça veut dire que si l'on veut mobiliser une majorité de population, il va falloir, un, bien comprendre quels sont ces mécanismes de mobilisation collective, et deux, il va falloir à chacun parler son discours. Et ce n'est pas de la démagogie, c'est une forme de réalisme qui dit que si on ne passe pas par leur mode à eux de mobilisation, de socialisation, ben ils n'entendront pas bêtement et ne fonctionneront pas.
Mmh. SMS, Internet, blog, podcast pour télécharger des émissions de radio à la carte. Je vous rappelle au passage que Rue des Entrepreneurs maintenant est téléchargeable sur podcast et je vous en prie, ne vous en privez pas. Les technologies nous donnent de multiples occasions d'individualiser nos modes de consommation. La science n'est pas en reste qui permet de se fabriquer un nouveau corps, de se donner l'illusion de l'éternelle jeunesse avec la chirurgie esthétique. Et l'on n'a encore rien vu. C'est ce qu'analyse Hervé Juvin dans son dernier livre « L'avènement du corps » publié chez Gallimard.
La technique dit que tout est possible, et en même temps, rappelons-nous que tout ne l'est pas tout à fait. La technique dit que tout est possible. Avant, soigner, c'était essayer d'aller contre la maladie, c'était essayer de réparer les conséquences d'un accident. Maintenant, c'est devenu tout autre chose. On remplace les pièces de corps de sportifs qui se sont usées. On améliore les performances d'un corps qui a décidé à un certain moment de sa vie qu'il a envie de courir comme un lapin ou qu'il a envie de soulever des barres de fonte très lourdes. Bref, on est capable de produire du corps, c'est-à-dire de produire de la performance physique. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Évidemment, comment ne pas citer le Viagra dans cette catégorie, qui est bien quelque chose qui modifie sur un point fondamental les performances du corps et qu'il soustrait à l'âge. Puis en même temps, quand même pas trop d'illusions. Même ce corps refait, ce corps rapiécé, ce corps renouvelé, il est quand même confronté au temps, et in fine, il est quand même confronté à la mort. Ce pourquoi il y a quelque chose de profondément contradictoire, de profondément paradoxal, dans l'éloge d'un corps complètement plastique qui se refait en permanence, on retarde, on ne se pose plus les questions, on ne veut plus les voir, elles sont quand même là quelque part devant nous.
À ceci près, c'est que j'ai aussi accès à la carte du génome humain, et là, brutalement, je vais pouvoir choisir les générations futures qui seront belles, intelligentes, brillantes, etc., etc.
La production du corps, c'est la production et l'entretien du corps qui existe, qui est né. Mais l'exemple le plus frappant, c'est celui que vous prenez. C'est qu'un enfant n'est plus aujourd'hui le fruit du rapport d'un homme et d'une femme. Un enfant est le fruit de la production par une femme, d'une naissance dont elle décide le moment, dont elle décide du patrimoine génétique et dont elle décide de l'ensemble des caractéristiques. Alors on a un marché des caractéristiques génétiques humaines, ce marché s'est développé beaucoup en Asie, il se développe beaucoup aux États-Unis, et à $500, vous avez quelqu'un qui n'a pas d'état génétique grave et c'est à peu près tout, et si vous payez $2000, vous avez la souche de quelqu'un qui est un docteur, qui a un doctorat d'état, qui en plus est blond, a les yeux bleus, fait du surf et court le marathon. Ça c'est quand même quelque chose de totalement nouveau, dont nous commençons seulement à effleurer les contours. Parce que nos amis assureurs en tirent des conséquences. C'est que bientôt, on ne laissera plus naître des gens qui sont promis à des pathologies graves et qui vont coûter très cher à la collectivité. Donc, vous avez raison, nous en sommes au point où on peut imaginer faire naître une humanité délivrée de la maladie, délivrée des pathologies graves, délivrée aussi de ce qu'était le handicap ou la laideur. Et vous voyez bien qu'on soulève deux ou trois questions sur qu'est-ce que c'est qu'être homme ou être femme, qu'est-ce qui fait société entre nous, et qu'est-ce qui fait de la diversité l'attrait de la vie.
Mais les assureurs en tirent déjà des leçons. Hervé Juvin, vous citez dans votre livre l'exemple d'une jeune fille aux États-Unis qui n'a pas obtenu de bourse parce qu'elle devait avoir un examen génétique, et dans cet examen s'est révélée une maladie qui faisait que son espérance de vie était raccourcie et elle n'a pas eu la bourse. C'est quelqu'un d'autre qui a eu la bourse.
Les conséquences du diagnostic très précis, de plus en plus détaillé, que l'on peut porter sur vos chances, sur nos chances de développer une maladie grave, nous ne faisons que commencer à les concevoir. Mais l'industrie de l'assurance, presque partout ailleurs qu'en France, et il faut signaler sur ce point, nous sommes extrêmement vigilants en France sur des questions éthiques, sur des questions de transfert d'informations, de protection des données personnelles. Beaucoup de pays ou de continents autour de nous ne le sont pas. Et nous sommes sur des problèmes économiques qui sont tout à fait considérables. Il est certain que la pure logique économique commande de ne pas donner une bourse à une étudiante qui va coûter cher à la collectivité et qui a beaucoup de chances de développer une maladie fatale dans les années qui suivent. En France, c'est à peu près intolérable d'avoir ce discours, mais nous devons bien mesurer que dans les trois quarts du monde qui nous entoure, non seulement on peut avoir ce discours, on peut développer du calcul économique derrière, mais ce sont d'ores et déjà les pratiques des assureurs ou les pratiques de ceux qui ont à travailler avec l'espérance de vie humaine. Ça pose évidemment quelques questions quant à la manière de mettre en concurrence les individus, quant à la manière de gérer des carrières, l'entreprise va avoir droit à quel type de données. Ça pose aussi tout simplement la question de la solidarité. Jusqu'où va la solidarité? Nos mutualités que l'on disait nationales, est-ce qu'elles me conduisent, moi qui ne fume pas, à payer sans limite pour quelqu'un qui a toujours fumé 2 paquets de cigarettes par jour? Est-ce que moi qui ne sais pas monter sur des skis, ça me conduit à payer pour les accidents de ski de ceux qui prennent des risques en faisant du hors-piste? Vous voyez l'infinité de questions qui est devant nous. Et ce ne sont pas des questions banales, ce sont des questions qu'on n'a pas voulu voir jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des questions qui vont se poser de manière extrêmement forte à nous dans les années prochaines.
Le monde de demain parlera d'une voix. Les hommes tendront leurs mains, chantant moi, 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 moi.
De soi, la société en émoi. C'est le dossier de Rue des Entrepreneurs ce matin sur France Inter. Didier Hadès, Dominique D'Ambert.
Le désengagement des citoyens des partis politiques ou des syndicats, la mise en cause des institutions, les comportements inciviques donnent l'impression d'une société individualiste. Mais parallèlement, la fibre associative ne faiblit pas. Au contraire, les Français sont les champions de la création d'associations, même si les vocations de bénévoles fléchissent un peu. Internet, avec les blogs, recrée des espaces d'échange et de discussion. Est-ce à dire qu'il y a de nouveaux lieux d'apprentissage du sens collectif? Et l'on pourrait penser, si l'on veut être positif, que l'intérêt général n'est pas une cause perdue. Bernard Catlin, sociologue, directeur du CCA, laboratoire d'idées et de prospectives du groupe Havas.
Par rapport aux 30 dernières années de pur autonomisme, je dirais, ou individualisme personnel, c'est une forme de re-socialisation. Oui, oui, oui. Le social, partager avec les autres, faire des efforts avec les autres, adopter l'uniforme des autres, se soumettre à une règle collective, accepter des contraintes de proximité des autres, se frotter aux autres, tout ça est en train de renaître, c'est clair. Mais ça n'est pas en train de renaître ni sur un mode planétaire dans la série Citoyens du monde, nous sommes tous pareils, nous sommes tous solidaires et venez dans mes bras, je ferai n'importe quoi avec n'importe qui vit sur la planète. Non, ça marche pas du tout. Et plus la mondialisation met la pédale forte, moins ça marche. On voit partout renaître au monde les clanismes, les personnalismes, les régionalismes, les autonomismes, les trucs et machin. Ça ne marche pas tellement sur le plan national. Dire Française, Français, levez-vous, réveillez-vous, etc. Ça ne marche pas tellement parce que c'est un discours trop général. Européen, encore moins, on l'a bien vu. Et donc, cette resocialisation, et c'est positif hein, dans un certain sens, se fait aujourd'hui en ordre dispersé. Et à géométrie variable, chacun de nous ayant plusieurs ports d'attache. Et si on veut me mobiliser, moi, sur, je ne sais pas, un phénomène d'environnement quelconque, la question à se poser, c'est de ne pas me tenir un discours Française, Français, citoyen, citoyenne, ça ne marchera pas, si c'est un discours général. Deuxièmement, il faut essayer de comprendre dans laquelle de mes facettes de vie, est-ce que je m'intéresse un peu à l'environnement, ou je ne m'y intéresse pas? Dans laquelle de mes facettes de vie je suis un pollueur ou un écolo? Et dans cette facette de vie, quel est mon mode de socialisation? Et c'est là qu'il va falloir rentrer et apporter. Donc, beaucoup, beaucoup de choses, je crois, vont devoir changer, notamment dans la communication, à la fois, et dans l'organisation, à la fois sociale et politique, à la fois à l'intérieur des entreprises, où je crois qu'il faut, à l'intérieur des très très grands groupes multinationaux, il faut recréer des entreprises à taille humaine, il faut recréer des ateliers ou des bureaux, ou des entités petites, à taille humaine, qui ont une autonomie de vie, une autonomie de salaire, une autonomie d'uniforme, une autonomie quelconque, un drapeau, un sigle, un logo, un patron qui est vraiment une personne et non pas un conseil d'administration lointain, si l'on veut remobiliser. Et puis il va se passer dans votre métier, dans le domaine des médias, quelque chose d'intéressant, je crois, c'est que on voit une explosion, une atomisation des médias grâce aux technologies aujourd'hui. On va bientôt avoir des médias presque faits sur mesure pour des petits groupes ou des petites catégories de gens, du one to few. Et je pense que ça va profondément correspondre aussi à cette évolution où, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un blog qui a du succès? Ben, c'est une petite communauté, hein, au fond. Qu'est-ce que c'est qu'un portail internet qui a du succès? C'est une petite communauté de centres d'intérêt à laquelle on appartient au moins pendant quelques minutes ou quelques heures de sa vie. On va voir se développer des médias éphémères qui vont être des médias qui, sur 3 mois, vont couvrir une action, une opération, etc. Donc ça va, je crois, très profondément changer la communication sociale, donc l'image qu'on va se faire de la société. Alors face à ça, qu'est-ce que c'est qu'un grand patron? Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique ou une femme politique nationale? Plus personne ne sait trop le dire.
L'honnête homme du 21e siècle a devant lui un espace de vie démultiplié. Il se trouve aussi devant des choix qu'aucun homme jamais, nulle part, n'a eu à faire avant lui. C'est ce qu'écrit Hervé Juvin dans son dernier livre, L'avènement du corps, publié chez Gallimard. Pour le président de la société de conseil Eurogroup Institute, l'heure des arbitrages a sonné.
Le point le plus important de ces arbitrages implicites, c'est que l'on a choisi collectivement de ne pas limiter les dépenses de santé en fin de vie, ce qui est un choix implicite qui n'est probablement pas soutenable dans le long terme. Je vais le dire de la manière suivante. Quelqu'un d'âgé ou de très âgé se casse le col du fémur, a une attaque qui le rend hémiplégique. Le système est fait pour ne pas limiter les dépenses, pour réparer le col du fémur là où le rééduquer, pour le prendre en charge en tant qu'hémiplégique pendant des mois ou des années. Et ça peut durer beaucoup d'années. Le coût pour la collectivité est de milliers, de dizaines de milliers, quelquefois de centaines de milliers d'euros. Dans le même temps, le petit-fils, la petite-fille de cette personne, à 20 ou 25 ans, peut se trouver dans une situation difficile d'intégration au marché du travail, et il lui faut vraiment beaucoup ramer pour avoir 500 euros ou 1000 euros pour être aidé. Il y a là un choix implicite. Je ne suis pas sûr que ce choix implicite soit complètement soutenable. Pour le dire de manière un petit peu violente, nous sommes collectivement d'accord jusqu'ici pour dépenser sans limite et sans savoir ce que ça coûte pendant les dernières années de la vie. Et pour en revanche dépenser extrêmement peu au compte-gouttes pour installer les jeunes dans la vie et dans la société. Je ne suis pas sûr que ce soit un choix d'abord gagnant et je ne suis pas sûr que ce soit un choix implicite, soutenable et durable.
Alors déjà aux États-Unis, déjà en Grande-Bretagne, il y a une forme de limitation de la durée de la vie. À 75 ans, on ne vous refait plus de hanches ou on débranche les tuyaux dans tel État américain.
C'est l'arbitrage de la rareté. C'est le fait qu'aucun système fini, aussi riche que nous le soyons, nos économies sont finies, ne peut répondre à des demandes infinies. Mais les modes d'arbitrage me paraissent extrêmement complexes parce qu'à quoi aboutit la liberté ou le libéralisme dans ce domaine? À faire exploser les dépenses de santé. Le système probablement le plus libéral qui est le système américain est aussi le système qui dépense le plus au monde.
C'est quoi le vœu pour cette année 2006 à la lumière de ce que vous nous dites?
Le vœu est tout à fait simple. C'est d'abord que nous prenions conscience de ce qui se passe. Nous vivons une transformation de notre condition humaine. Pour le dire savamment, nous vivons une mutation anthropologique que l'homme n'a pas vécue depuis plusieurs millénaires. Il faut en prendre conscience si on veut la maîtriser et si on veut qu'elle nous fabrique un avenir meilleur. Et si l'on pouvait avoir un souhait plus précis, particulièrement en France, c'est que la manière dont nous avons géré et dont nous gérons cette transformation, c'est d'interdire le débat. C'est de multiplier la censure, de multiplier le recours aux idées reçues et aux politiquement corrects. Un certain nombre de paroles politiques font exploser les idées reçues. Qu'il soit permis d'ouvrir des débats qui jusqu'ici étaient interdits. C'est probablement la bonne manière de revitaliser la démocratie et de faire qu'il y ait un peu de la politique qui vienne, sur des débats aussi importants, rendre la liberté de choix à chacun.
L'individualisme est un humanisme, affirme le sociologue François de Singly. Côté positif, l'individualisme est porteur de bienfaits. Il permet à chacun de se construire, d'être autonome. Côté négatif, l'individualisme est porteur d'anxiété et d'isolement quand il est subi. Il peut aussi dériver vers l'indifférence, l'égoïsme et l'incivilité. Le défi de nos sociétés modernes est de trouver un équilibre entre soi et les autres, de réussir en somme la cohabitation.
Le entrepreneur a été réalisé par Marie Merdier avec Serge Viguier, Armel M, documentation Estelle Ferrari. Didier Hadès,
Dominique D'Ambert.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine.
Merci à Didier Hadès et à Dominique D'Ambert. Notez que vous pourrez réécouter Rue des Entrepreneurs à la carte sur le site internet de France Inter pendant les 4 prochaines semaines sur le www.franceinter.com. Vous trouverez aussi sur ce même site la liste des invités, n'hésitez donc pas à leur laisser des messages, et le titre des ouvrages qui ont servi à l'élaboration de ce dossier. Dans quelques instants, ce sera Philippe Meyer, avec La prochaine fois je vous le chanterai, et puis juste après, ce sera l'émission intermédiaire avec Yvan Levaille. Vous écoutez France Inter, il est 10h.